Un nouveau drame routier hier soir à Païta. Une adolescente a été mortellement percutée par la voiture d'un membre de sa famille alors qu'elle marchait le long de la route. La Calédonie toujours en vigilance jaune, forte pluie, orage et vent violent. La dépression tropicale faible TD06F devrait continuer sa trajectoire au sud de la Grande Terre et maintenir jusqu'à demain un temps perturbé sur l'ouest, le sud et les Loyautés. Les discussions bilatérales se poursuivent à Paris entre Manuel Valls et les délégations des groupes politiques calédoniens. Après la délégation des loyalistes, c'est la délégation du FLNKS, conduite par Emmanuel Tchibaou, qui a participé hier à sa première discussion. Après de longs mois de tensions dans la commune, Le Mont d'Or signe ce matin deux conventions pour lutter contre l'insécurité et la délinquance. La rentrée scolaire s'accompagne de longues démarches à effectuer en parallèle des cours pour les étudiants. Entre les demandes de bourses, d'aide au logement et d'assurance, il est difficile de s'y retrouver, mais la SIC est là pour les aider. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. À la une de l'actualité, ce drame hier soir à Païta, une jeune mineure a perdu la vie fauchée par une voiture conduite par un membre de sa famille près du cimetière de la commune. Aux alentours de 19h20, un homme de 31 ans raccompagnait chez elle la jeune fille de 16 ans avant qu'elle ne décide finalement de rentrer à pied. Le suspect prend alors sa voiture et se décale sur la route à hauteur de la victime qu'il percute. L'enquête en cours devra déterminer les raisons de son geste. Le décès de la jeune fille est constaté vers 23h après l'arrivée des secours. L'homme qui avait pris la fuite après le choc s'est rendu à la brigade de gendarmerie quelques heures plus tard, accompagné de sa famille. Il est actuellement en détention provisoire et des dépistages ont été effectués par les forces de l'ordre. Ce drame porte donc à 5 le nombre de décès sur les routes depuis le début de l'année. Un mot de météo, la Nouvelle-Calédonie est toujours sous l'influence de la dépression tropicale faible TD06F. Les deux jours à venir vont voir le temps évoluer d'heure en heure, mais avec des effets relativement modérés, puisque la dépression ne se renforce pas, Jean-François Baudin.
Oui, cette dépression n'a finalement pas traversé la Grande Terre, comme les premiers modèles le laissaient supposer. Elle continue de descendre doucement le long de la façade ouest de la Nouvelle-Calédonie et devrait s'incurver vers l'est prochainement, avec des effets modérés, nous a dit Gilles Deveau, chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Là, actuellement, elle est à peu près à 340 km dans l'ouest-sud-ouest de Tantouta. Elle génère des précipitations qui sont éparses, localement modérées à fortes, notamment sur les Loyautés et une bonne partie sud de la Grande Terre, avec des cumuls sur l'ensemble de la journée entre 40 et 80 mm aux Loyautés, de 10 à 40 mm ailleurs, avec toutefois un nord-ouest qui est beaucoup moins arrosé que les autres régions où on a relevé entre 5 et 10 mm.
Et les vents restent modérés de 30 à 40 km/h, notamment sur les Loyautés, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h. Sur une grande partie sud de la Calédonie, les effets de la dépression devraient être plus intenses à partir de demain.
Avec une trajectoire vers l'est en cours de nuit qui devrait l'amener en milieu de journée demain vendredi, à peu près à une centaine de kilomètres dans le sud de l'île Ouin. On aura des renforcements sur le sud-ouest à compter de la mi-journée demain. Les autres régions, en revanche, le renforcement va être plus tôt. On attend des vents forts de nord à nord-ouest, entre 20 et 25 nœuds. Et ces vents vont continuer de se renforcer en cours de nuit pour atteindre demain en matinée sur les Loyautés la pointe sud et le sud-est, des valeurs autour de 25 nœuds avec des rafales qui pourront atteindre 35 à 40 nœuds, soit des valeurs jusqu'à 75 km/h.
Et attention, demain matin sur la côte sud-ouest, a expliqué Gilles Deveau, c'est une journée marquée par des changements qui nécessitent de la vigilance.
Ce qui est particulier pour le sud-ouest, c'est qu'on n'aura pas de vent une bonne partie de la matinée et d'un seul coup, avec l'éloignement du phénomène dans le sud du territoire, on va avoir une bascule assez brutale au secteur sud à sud-ouest avec un vent qui va passer de pas grand-chose à des valeurs autour de 20 voire 25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds. C'est quasiment un coup d'ouest, mais c'est plutôt une rotation sud à sud-ouest. Mais l'aspect brutal, oui, fera forcément penser à un coup d'ouest. Associé à cela, avec l'éloignement du minimum, on va avoir l'arrivée d'une grosse houle de sud-est, mais un petit peu plus tardivement, en fin d'après-midi et des premières parties de nuit de vendredi à samedi, une houle de sud-est qui va impacter l'extrême sud et le sud-ouest de la Calédonie, avec des houles de l'ordre de 2,50 m à 3 m.
Gilles Deveau, chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa. Et si le nord et l'est vont retrouver un temps plus clément dans la journée de demain, il faudra ailleurs attendre samedi en fin de journée pour voir la situation réellement s'améliorer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, au-delà de la situation météo actuelle, à quoi sont dues, selon vous, les difficultés, la désorganisation du transport aérien et maritime dans les îles? Si vous pensez que c'est dû à une mauvaise gestion, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est une conséquence des émeutes de mai, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 25% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés mais par SMS, pense que l'UNC a raison de vouloir créer une filière Sciences Po à Nouméa. Ils sont 75% à être d'un avis contraire. Les discussions bilatérales se poursuivent à Paris entre Manuel Valls et les délégations des groupes politiques calédoniens. Des discussions très discrètes pour lesquelles aucun agenda précis n'a été rendu public, Jean-François Baudin.
Après la délégation des loyalistes, c'est la délégation du FLNKS conduite par Emmanuel Tchibaou qui a participé hier à sa première discussion avec le ministre des Outre-mer, auquel elle a présenté la motion de politique générale de son 44e congrès. La délégation du Rassemblement, composée d'Alcide Ponga, de Virginie Rufnac et de Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, sera reçue dans la soirée pour nous, rue Audineau. Ce sera ensuite le tour de la délégation de l'UNI, composée de Jean-Pierre Djaïwe, Adolphe Digoué et Victor Tutugoro. La délégation Calédonie Ensemble et celle de l'éveil océanien auront elles aussi des échanges avec le ministre des Outre-mer. Manuel Valls souhaite rencontrer les délégations une seconde fois quand il aura fait un premier tour des positions des uns et des autres. Demain, vendredi, les loyalistes et le Rassemblement participeront ensemble à ce second entretien pour montrer qu'ils parlent d'une même voix et défendent le même projet. Les deux délégations doivent également rencontrer demain le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui suivent de près le déroulement de ces discussions bilatérales. En marge de ces entretiens bilatéraux, les responsables calédoniens ont également des rendez-vous avec plusieurs personnalités politiques. Les loyalistes ont ainsi rencontré le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Le député Nicolas Metzdorf s'est quant à lui entretenu avec Amélie de Montchalin, ministre déléguée aux comptes publics, pour préparer la table ronde qui doit se tenir samedi à Bercy pour évoquer la situation budgétaire et économique de la Nouvelle-Calédonie.
Et c'est Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de l'économie, du commerce extérieur et de la fiscalité, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et sur les mesures envisagées pour y faire face, mais aussi sur la table ronde qui doit se tenir samedi à Bercy et sur les aides de l'État. Christopher Gigès, invité de Transparence, une interview à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Dans le reste de l'actualité, à partir de lundi prochain, les usagers de Tanéo vont découvrir un réseau profondément remanié. Le SMTU est prêt à relancer un service qui restera très en deçà de ce qu'il était avant le 13 mai. Et Jean-François Baudin, vous en avez parlé ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
Pour l'instant, il faut réanimer un mort, nous a dit la présidente du SMTU, Naya Wateu, car le réseau a été détruit par les émeutiers. Depuis plusieurs mois, les équipes du SMTU s'organisent pour relancer un réseau à minima qui entrera donc en vigueur dès lundi prochain. Il a fallu prendre le temps à expliquer Naya Wateu.
Le réseau de transport Tanéo tel que le connaissaient les usagers avant 13 mai est mort. Il faut d'abord le réanimer. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur les trois derniers mois avec la province sud qui est engagée à hauteur de 50% sur le SMTU, avec les communes que sont Nouméa, Païta, Dimbéa, Mont-d'Or, qui contribue aussi au financement de ce réseau. Ça a d'abord été de réanimer un mort et là maintenant de voir comment est-ce qu'on peut remettre des bus sur la route, j'ai envie de dire, mais surtout permettre aux Calédoniens qui utilisent régulièrement le réseau de transport de pouvoir se déplacer comme il faut, à un juste prix et en sécurité.
Avant le 13 mai, Tanéo transportait 20 à 25 000 personnes chaque jour, une jauge qu'il est impossible d'atteindre dans la situation actuelle. Mais le réseau qui entre en service lundi a été pensé pour répondre le plus possible aux attentes des usagers.
On a constitué un réseau qui tient compte de la nécessité pour les usagers de se rendre sur leur lieu de travail, la nécessité pour les scolaires de pouvoir se rendre sur leurs établissements respectifs. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, pour les personnes qui sont des seniors, de pouvoir se rendre dans des établissements spécialisés ou dans, là où on a des offres de soins. Ça a été le premier élément nécessaire. Aujourd'hui, on passe d'un réseau qui était de 30 lignes avant à un réseau de 8 lignes. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut adapter et possiblement augmenter un petit peu les lignes de manière à pouvoir desservir l'ensemble des établissements scolaires pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions. Voilà le challenge qu'on s'est fixé. On a une offre aujourd'hui pour pouvoir opérer un réseau qui soit cohérent avec ce que les collectivités soient en capacité de financer et qui répond aux besoins des usagers.
Un réseau d'un coût d'environ 1,9 milliard de francs contre 4 milliards pour le réseau existant avant le 13 mai. La question du financement reste d'ailleurs cruciale. Les collectivités financent le SMTU à hauteur de leurs possibilités. Mais ce que regarde l'usager, c'est évidemment le prix du billet ou de l'abonnement. Il faut trouver de nouvelles façons de prendre une partie du coût du billet en charge, a expliqué de son côté Francisco Sionnet, délégué syndical du soin que section transport. Et il y a pour cela des pistes de réflexion.
Il existe actuellement le chèque déjeuner. Aujourd'hui, nous, le soin, quand on a travaillé là-dessus pendant la période de transition, c'est de dire au chèque déjeuner, aujourd'hui, il a un support qui s'appelle Néoca. Aujourd'hui, c'est de ne pas rajouter un coût supplémentaire, mais le diversifier. Les néocards qui existent aujourd'hui, c'est pouvoir segmenter. Demain, c'est pouvoir dans la mobilité. Et nous avons rencontré d'ailleurs les concepteurs de la néocard qui disent que la faisabilité, c'était positif. Dans le cadre du PS2E, on avait déposé nos luçons avec cette proposition. Il faut juste légiférer au niveau du Congrès. Pour pouvoir, aujourd'hui, ça ne coûtera rien aux employeurs. Néanmoins, pour diversifier ce portefeuille. Et aujourd'hui, ce n'est pas que déjeuner, on peut se déplacer aussi.
La question du coût du titre de transport ou de l'abonnement reste évidemment déterminant. Le ticket à l'unité coûtera à partir de lundi 500 francs pour l'usager, ce qui ne représente que la moitié du coût réel. L'autre partie étant prise en charge par les collectivités. Avant les émeutes, seuls 30% du coût réel du ticket était à la charge de l'usager. Et le SMTU a aussi essayé de s'adapter au mieux et d'adapter au mieux les tarifs des abonnements pour les personnes pour lesquelles le transport en commun est indispensable, a expliqué Naya Wateou.
Pour un collégien qui doit partir le matin pour aller dans son établissement, revenir le soir. En moyenne, 5 jours par semaine. Sur un mois de mars complet, par exemple, il paie son plafond, son pass, à 8000 francs pour le mois. Et à partir du 9e jour, il voyage gratuitement sur l'ensemble du réseau TANEO. C'est pareil pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil pour les seniors. Parce qu'on a remis en place ce plafond. Alors bien sûr, avant, il était à 4500, aujourd'hui, il passe à 8000. Mais voilà, on fait aussi avec les moyens qui sont les nôtres. Mais c'est vraiment de se dire que plus je voyage, moins je paye en fait. Parce que du coup, on revient à un ticket qui est de l'ordre de 270 francs. Pour un travailleur, une personne de plus de 27 ans, qui part le matin pour aller travailler, qui rentre le soir, 5 jours par semaine, c'est-à-dire qu'il voyage régulièrement, au bout du 13e jour, il voyage gratuitement sur le reste de la ligne. Ce réseau, il est repensé sur la base des usagers qui le prennent quotidiennement et qui sont les premiers utilisateurs. Par contre, quand c'est de temps en temps, et ben le ticket il est à 500 francs. Alors, et encore à 500 francs, il est financé à 50%.
Ce nouveau réseau TANEO entre en circulation lundi prochain. Mais attention, il n'y aura pas de bus demain et samedi pour permettre aux équipes de faire les ajustements et les paramétrages nécessaires. La première semaine de fonctionnement du 10 au 16 février permettra d'effectuer les derniers ajustements pour que tout soit prêt pour la rentrée scolaire.
Une émission à retrouver comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. En bref, dans le Nord, les pêcheurs professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils se posent la question, comment continuer d'exister sans subvention de la province Nord ? En effet, aucune subvention ne sera versée à la Fédération des pêcheurs de la province Nord qui compte 60 membres. Une réunion de crise s'est donc tenue ce matin à Conné pour tenter de trouver des alternatives à cette aide de la province Nord. Ils espèrent avoir le soutien des institutions pour la poursuite de leur activité. Il est 18h, l'heure de marquer une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment la signature de 2 conventions au Mont d'Or. A tout de suite.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Soir, Léana Colombo.
Et 2 conventions signées ce matin au Mont d'Or. Elles ont pour objectif de lutter contre l'insécurité et la délinquance dans la commune. L'une concerne la coopération entre la police municipale et la gendarmerie et l'autre met en place un nouveau protocole de participation citoyenne, Jean-François.
Ces deux conventions s'inscrivent dans le contexte des violences de 2024. La commune a en effet été le théâtre de nombreuses exactions et de nombreux affrontements, notamment au niveau de Saint-Louis. Pour le haut-commissaire Louis Lefranc, le retour à la normale ne peut se faire qu'avec la participation des citoyens. Et il souligne leur résilience qui a permis d'éviter le pire.
Les citoyens de cette commune du Mont d'Or Sud ont été, c'est le moins qu'on puisse dire, résilients. Donc il fallait que les citoyens de cette commune acceptent cette règle du jeu implicite qui consiste à avoir une coordination très fine entre l'autorité municipale, eux-mêmes, et les forces de police municipales et les forces de sécurité de la gendarmerie nationale. Donc, finalement, on ne fait que formaliser une pratique qui a donné de bons résultats, qui a porté ses fruits. On n'a pas basculé sur la commune du Mont d'Or dans une guerre civile. Ça aurait pu, ça ne s'est pas fait. Donc, merci à tous les citoyens du Mont d'Or qui nous ont fait confiance et qui ont accepté avec beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation ce qu'on leur a imposé.
La convention signée entre l'État et la mairie pose les bases du nouveau protocole de participation citoyenne lancé en 2018. Il s'agit de citoyens référents de leur quartier qui ont pour mission d'informer les forces de l'ordre en cas d'événements suspects ou des troubles à l'ordre public. Eddie Lecourieux, le maire du Mont d'Or.
C'est d'expliquer à l'administré qui veut s'inscrire dans ce processus, c'est lui expliquer comment ça fonctionne la gendarmerie, comment ça fonctionne la police avec des numéros utiles, intégrer la personne dans son environnement sécuritaire. Et c'est surtout que cette efficacité viendra d'une organisation de gens qui sont sur une commune qui est très, très, très étendue. Moi, j'y crois parce qu'on l'a vu très naturellement se mettre en place. Pour l'instant, on aurait encore quelques quartiers dont on n'a pas encore de référent, mais le but, c'est bien de couvrir toute la commune pour être efficace. Tout le monde est le bienvenu et il y aura un appel à candidater très bientôt.
L'autre convention signée ce matin pour une durée de 3 ans vient formaliser les pratiques de coopération entre la police municipale et la gendarmerie nationale qui existent déjà. Elle définit les missions prioritaires de chacun, notamment pour la police municipale sur la partie judiciaire, la nature et le périmètre ainsi que les modalités d'intervention. En marge de cette signature, le général Mathéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, a fait le point sur l'engagement des forces de l'ordre au Mont d'Or et notamment pour sécuriser la circulation sur la RP1 depuis l'ouverture totale de l'axe.
Sur 24 heures, la sécurisation de cette portion de route représente 350 gendarmes. Cet axe est tenu nuit et jour. Voilà. Donc à l'instant T, ça dépend des horaires, parce que nous avons adapté notre dispositif selon l'affluence du trafic. Ça dépend aussi de l'ambiance que nous ressentons, parce que nous travaillons étroitement pour connaître les tensions qui pourraient survenir. Mais en tout, c'est 350 gendarmes qui sont fixés sur cette mission de Saint-Louis. Il n'est pas question de redescendre ce niveau. Chaque incident est inacceptable, chaque jet de caillou est inacceptable. Mais il est vraiment important de reconnaître qu'il y en a de moins en moins et qu'aujourd'hui c'est l'exception, heureusement, parce que tout le monde a compris que c'était une impasse et que ces faits violents étaient d'une lâcheté sans nom. Parce qu'agresser des vieilles personnes, des enfants par des jets de cailloux, c'est proprement lâche et scandaleux.
Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général de division Mathéos, puisqu'il a obtenu sa troisième étoile le 1er février dernier.
Dans le reste du Grand Nouméa, depuis 17h30, les élus de Dumbéa sont réunis pour un conseil municipal. Ils doivent procéder au débat d'orientation budgétaire alors que le vote du budget est prévu le 6 mars prochain. En début de séance, Joël Malaval a été installé comme nouveau conseiller du groupe de la majorité municipale pour une ville à votre image. Il remplace Larry Martin qui a annoncé sa démission le 19 décembre dernier. Et à Nouméa, la vision autochtone de l'avenir institutionnel de Nouvelle-Calédonie au centre des réflexions du Sénat coutumier. Ce matin a débuté l'installation d'un groupe de recherche civilisationnelle autochtone pluridisciplinaire. Comprenez ici la mise en place de cercles de réflexion sur différentes thématiques telles que le droit, la philosophie kanak, le patrimoine culturel ou encore le système de santé. Le tout supervisé par des scientifiques locaux pour répondre au mieux aux problématiques actuelles. Ces groupes de recherche viennent en parallèle des travaux déjà effectués au Forum du Livre Blanc des quartiers populaires qui se déroulait le week-end dernier, toujours au Sénat coutumier à Nouville. À peine le lycée fini, c'est déjà le retour sur les bancs de l'école pour quelques jeunes calédoniens, mais à l'université cette fois-ci. Certains quittent le foyer familial pour la première fois, un gain en autonomie excitant, mais qui peut parfois effrayer autant les étudiants que les parents, car il faut gérer les aides au logement, les assurances habitation et autres tâches administratives. C'est justement pour les épauler dans leur démarche que la SIC organise des ateliers à la maison de l'étudiant, un accompagnement qui a particulièrement rassuré cette maman venue de Koumac pour accompagner sa fille dans ses premiers pas à l'université.
Énormément de démarches. J'espère qu'on termine l'aide au logement, mais depuis septembre-octobre, on est dans les papiers de Parcoursup. Maintenant, c'est tout ce qui est voté, pratique. Je pensais que c'était fini, mais on continue les démarches.
Vous venez d'où? De loin?
De l'extrême nord, Koumac, donc 400 km. Donc je ne sais pas quand c'est que je vais revoir ma fille, par exemple. La SIG va nous aider et la maison de l'étudiant à comprendre comment elle devient autonome au niveau de l'électricité, d'Internet, des aides au logement, de gérer son budget. Apprendre qu'il y a un service médical sur place, c'est rassurant pour une maman. Ça me rassure et répond à nos questions. Des petites choses techniques qui font que je vais repartir plus sereinement à Koumac.
L'intégration des étudiants à l'université continue. Demain, une braderie solidaire devrait être organisée pour aider les jeunes à s'approvisionner en fournitures scolaires si les conditions météo le permettent. Et notez que Catherine Riss, la présidente de l'Université de Nouvelle-Calédonie, sera notre invitée demain à 7h30. L'occasion de dresser avec elle le bilan de l'année 2024 de l'UNC et présenter les perspectives de cette nouvelle année universitaire qui a débuté ce lundi sur les campus de Bakau et Nouville. Catherine Riss, invitée du matin, c'est demain à 7h30 sur RRB. L'actualité dans le Pacifique maintenant. En Nouvelle-Zélande, diverses cérémonies ont marqué le 185e anniversaire de la signature, le 6 février 1840, du fameux traité de Waitangi, un parchemin au terme duquel les chefs coutumiers maoris ont cédé la totalité de leurs terres à la couronne britannique. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Considéré comme l'acte fondateur de la Nouvelle-Zélande, le traité de Waitangi, du nom du cottage de la baie des îles où il a été signé, est un jour de fête nationale chez nos voisins qui ont pris l'habitude de l'appeler Waitangi Day. Comme tous les ans, des cérémonies coutumières ont eu lieu à l'aube pour célébrer l'événement. Des haka ont plus tard accueilli les waka, ces longues pirogues traditionnelles que les premiers Maoris utilisèrent pour découvrir le pays aux longs nuages blancs, ou Aotearoa, la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui. Plusieurs personnalités politiques ont assisté aux célébrations qui ont eu lieu au cottage de Waitangi. Le Premier ministre Chris Luxon et le gouverneur général de la Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro, ont quant à eux choisi de marquer l'événement dans l'île du Sud, au Marae d'Akaroa. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et avant de refermer ce journal, notez cette information. Il s'agit du dernier jour pour participer à notre grande chance. Tentez de remporter un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offert par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20, 371 francs par SMS. Le tirage au sort aura lieu demain à 14h, donc n'hésitez plus. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Et c'est ainsi que l'on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et voyons toute la météo avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, la dépression se rapprochera sur le sud-ouest de la Grande Terre. Le ciel restera très nuageux à couvert, mais les précipitations, encore localement modérées à fortes en soirée, deviendront progressivement plus rares et plus faibles, notamment sur la moitié nord. Le vent de nord à nord-ouest se renforcera entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds au Loyauté sur l'extrême sud, et se maintiendra entre 15 et 20 nœuds sur l'est. Sur la pointe nord et le nord-ouest, il s'orientera à l'ouest entre 15 et 20 nœuds, tandis qu'il restera plus faible sur le sud-ouest. Les températures minimales oscilleront entre 22 et 25 degrés en général, localement 19 degrés sur l'ouest. Demain matin, la dépression devrait encore circuler au large du sud de Nouméa. Le temps restera maussade avec encore des pluies faibles, à parfois modérées sur l'ouest, le sud et au Loyauté. Ailleurs, les précipitations seront plus rares et de belles éclaircies se développeront. Le vent de nord-ouest soufflera autour de 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds au Loyauté et entre 20 et 25 nœuds sur le sud-est et vers l'île des Pins. Ailleurs, il s'orientera au sud-est entre 15 et 20 nœuds, mais il sera encore faible en début de matinée sur le sud-ouest.